Nous attendons le Seigneur. Notre aide et notre bouclier, c'est lui. La joie de notre cœur vient de lui et notre confiance est en son nom très saint. Que ta fidélité, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. C'est la finale du psaume 33 qui était un des textes que l'Église nous invitait à partager aujourd'hui, mais que j'ai gardé pour vous accueillir, en espérant que cette confiance qui est réciproque entre Dieu et vous puisse vous apporter de l'espérance, de la joie, de la paix aussi, une plénitude qui fasse que ce moment que nous passons ensemble soit un moment mis à part qui vous enrichisse les uns et les autres. Alors soyez la bienvenue, évidemment, pour ce jour, pour ce culte. Les habitués, évidemment, ils connaissent bien la maison, mais il y en a qui sont de passage, qui sont là pour la première fois, je les salue, évidemment. Et puis, des familles, des baptisés, ça va de soi, hein, Soubelé et Crisper, les uns les autres, vous êtes les bienvenus dans le temple, ça va de soi. Et il y a là, comme ça arrive souvent, lorsqu'il y a des actes pastoraux, comme nous disons, aussi une variété d'appartenance à des courants religieux, philosophiques différents, mais tout cela se trouve, je réunis finalement, dans un moment de joie et d'espérance que représentent en partie les baptêmes des enfants que nous recevons tout à l'heure dans quelques minutes. J'espère que pour vivre ce moment de grâce et d'accueil dans la présence du Seigneur, vous avez de quoi chanter comme il se doit. Les registres bleus, c'est pour les chants spontanés qu'on chantera dans quelques minutes. Mais tout de suite, je vous invite à prendre le psautier marron où il y a les chants qui sont commandés et vous prenez le psaume 134. J'espère qu'il vous ira. Vous pouvez vous lever pour chanter, vous serez mieux. On reviendra sur ces deux grandes paroles dans quelques minutes aussi. J'en dirai un mot, mais je voudrais vous les rappeler. Ces deux grandes paroles qui portent en elles tout l'enseignement de l'Écriture, que ce soit la première ou la deuxième alliance, vous les connaissez en général, j'espère. La première, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée ». Et le deuxième, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Aucun commandement, aucune parole n'est plus grande que ces deux-là. Je vous invite à prendre le premier chant dans les livrets bleus, page 21. Père, avant toute chose, nous voudrions te remercier et te rendre grâce pour cet instant mis à part dans nos vies, cet instant où nous te rencontrons, à la fois dans la prière, dans le silence, dans l'écoute de la parole, avec nos réflexions, avec nos vies. Oui, Père, nous entendons ces paroles que nous avons relues une fois de plus, celles qui demandent de t'aimer et d'aimer les autres dans un élan de vie, peut-être même incontrôlée. Et pourtant, au regard de nos vies, alors que nous sommes dans un face-à-face avec toi qui nous pose dans la lignité de l'être, Eh bien, nous remarquons combien nos vies sont en deçà de ces paroles. Pardonne-nous, Père, si nous n'arrivons pas à t'aimer comme nous le devrions. Il y a tant et tant de choses dans nos vies qui nous préoccupent, tant et tant de choses qui se mettent entre toi et nous, tant et tant de choses qui font que nous t'oublions bien souvent, et tant de choses qui sont là comme des excuses que nous mettons en avant. Et nous savons bien que les meilleures des excuses sont souvent les pires. Pardonne-nous, Père, pour ces manquements. Et pardonne-nous aussi d'être trop recentrés sur nous-mêmes, de ne pas arriver à aller vers les autres et vers le monde qui en a tant besoin. Pardonne-nous de ne pas savoir accueillir, de ne pas savoir être accueilli aussi, de ne pas savoir entendre le bruit du monde, le cri des désespérés, et de ne pas agir en conséquence. Oui, Père, il y a tant et tant de choses qui sont des zones d'ombre dans nos vies, alors que tu voudrais que nos vies soient des vies de lumière. Nous te remettons tout cela, Père, sachant en toute confiance que tu nous accueilles les uns les autres tels que nous sommes, avec nos questions, nos doutes, nos manquements, nos réussites et nos joies, pour faire de nos vies des vies toujours renouvelées, des vies qui sont toujours relancées, des vies qui sont toujours sous ton regard, dans ta lumière, des vies qui sont sensibles à l'appel de ta parole. Merci, Père, de nous accueillir tels que nous sommes, de nous aimer tels que nous sommes et de nous accompagner tels que nous sommes. Amen. Le centre même du message du christianisme, quelle que soit la tradition de ce christianisme, le centre même, c'est l'annonce du pardon. Le fait que, quelles que soient nos vies, nos actions, nos pensées, ce que nous avons réussi ou raté, eh bien, nous savons que Dieu est toujours de notre côté. Peut-être sommes-nous jugés. Après tout, pourquoi pas? Mais la grande question, c'est la sentence qui suit. Être jugé, ça permet souvent de faire le point, de mettre le doigt sur ce qui fonctionne ou ce qui ne marche pas. Mais le pardon qui suit est toujours un mot, je dirais, d'exhortation à la vie. Un mot qui efface tout ce qui ne va pas pour que nous puissions repartir comme si nous étions tout neufs, finalement. C'est ça la grâce. Et que Dieu, en Jésus-Christ, par le message des prophètes aussi, par tous les témoignages qu'il y a dans le monde, dans l'Église, Dieu nous dit d'une manière ou d'une autre que nous sommes pardonnés, que nous pouvons repartir vraiment dans nos vies allégées du poids de la culpabilité. Lui, il le prend pour en faire ce que bon lui semble. Cela nous échappe, c'est son mystère. Mais en ce qui nous concerne, nous continuons nos routes dans sa lumière et dans son amour. Et c'est ça l'essentiel. Alors, des signes de la grâce, j'aime bien vous en donner, vous savez, de temps en temps. Hein, je veux dire, voilà. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas très difficile, puisqu'il y a deux baptêmes. Hein, voilà. Et les baptêmes, c'est toujours un grand moment de joie, évidemment, pour les familles des baptisés, ça va de soi, je veux dire. Hein, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Pour l'Église, c'est toujours un moment de joie. C'est toujours un moment d'espérance aussi, parce que on se dit, voilà, pour ces enfants, il y a quelque chose qui se passe, qui est extraordinaire, même s'ils n'en ont pas conscience. Ça, peu importe, ça s'appelle la grâce aussi, de dire, mais ça, c'est ça qui est bien. Je veux dire que pour les pasteurs, c'est aussi assez sympa, surtout lorsqu'on marie des couples, comme ça a été le cas là, et puis que quelques temps après, boum, il y a un baptême qui arrive. Et une sorte de suivi comme ça, et je crois que c'est extrêmement agréable. Ça a des privilèges des pasteurs, vous savez. Ça, enfin, tout le monde ne peut pas être pasteur, mais je vous en fais la communication. Je dois vous dire, c'est vraiment quelque chose d'assez génial, parce qu'on s'aperçoit que dans la vie des jeunes, bien, il y a une sorte de continuité qui se passe à des moments particuliers qui sont des ouvertures de l'éternité dans notre vie. Et ça, je crois que c'est important. Ça aussi, ça fait partie de la grâce, ça fait partie des signes du pardon. Alors, je vous invite à dire à Dieu notre reconnaissance. Le 23. Dans la joie et la reconnaissance, je vous invite à dire notre foi. Je crois en Dieu, notre Père, il est amour. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur, il a souffert, il est mort et il nous pardonne. Il est la vie et la lumière du monde, son règne dépassera le temps. Malgré notre faiblesse, je crois qu'en Jésus-Christ, Dieu est l'espérance des hommes et l'homme est l'espérance de Dieu. Je crois en l'Esprit, présent au monde et au cœur des hommes. L'Esprit donne la paix aux hommes de bonne volonté. L'Esprit de Dieu crée et recrée le monde, le dynamise et le conduit vers le royaume. Je crois à la communion de tous dans la foi, l'espérance et l'amour. Je crois à l'amour plus fort que la mort. Je crois à la vie éternelle. Amen. Je suis désolé, je préfère parler sans micro. Vous m'entendez mieux ? Ah ben voilà, d'accord. Très bien, voilà. Donc, soyez les bienvenus. Je vous ai dit le plaisir que j'avais de vous recevoir tout à fait personnel et que je partage avec la communauté du foyer de l'âme ici. Mais cette communauté n'est jamais qu'une communauté de l'Église universelle. Il ne faut pas le perdre de vue. Jésus a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, le royaume de Dieu est semblable à ceux qui sont comme eux ». Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est important, parce que les enfants ont une confiance formidable en leurs parents. Alors, ils ont confiance auprès des adultes aussi, évidemment, ça va de soi. Et puis, ils sont dépendants, comme nous sommes dépendants de Dieu. Et je crois que c'est important d'accueillir des enfants. C'est important d'accueillir des enfants aussi pour signifier la grâce, parce que les deux impétrants ne connaissent pas grand-chose de Dieu. Même s'ils sont précoces, comme on dit aujourd'hui, ce dont je ne doute pas, mais je ne pense pas que l'idée de Dieu leur soit très familière. Je veux dire, il doit y avoir quelques difficultés à en parler pour eux. Mais dans tous les cas, c'est vraiment le signe de la grâce et un moment de joie que l'Église partage avec vous. Alors voilà comment Jésus-Christ lui-même a institué le baptême, comme on dit, tout à fait à la fin de l'évangile de Matthieu, il dit ceci. Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez enseigner toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc le baptême, comme je disais, c'est le signe de l'alliance qu'il y a entre Dieu et le monde, entre Dieu et les êtres humains, évidemment. C'est le signe de l'entrée dans l'Église, aussi dans la communauté des croyants, bien sûr. C'est le signe d'une nouveauté de vie. Et cela, c'est important. C'est peut-être le plus important de tout ce qui est signifié dans le baptême, une nouveauté de vie en Jésus-Christ qui nous permet précisément de vivre dans l'espérance et dans la joie. Il est effectif que cette nouveauté de vie, comme si nous étions morts à une vie précédente pour renaître à une vie nouvelle, marquée du sceau du baptême, marquée du sceau de la présence de l'Esprit, eh bien l'Esprit le fait vivre, évidemment. Et je crois que dans cette période de Pentecôte, puisque nous sommes qu'à quelques jours de Pentecôte, c'est important de le souligner. Le Saint-Esprit est là pour nous faire vivre la dimension baptismale, finalement, de la nouvelle vie qui nous est offerte en Jésus-Christ. Alors, chers amis, L'Église, depuis l'origine, pratique le baptême avec toujours espérance et joie. Et c'est pourquoi je vous invite maintenant à venir, les parents paramarraines de Lascar. Voilà. Donc, j'allais dire en vrac, mais ce n'est pas très élégant. Les familles Soulet et Grisper. Alors, vous allez vous présenter les uns les autres. Je n'accroche pas les noms et les prénoms.
Guillaume, le papa.
Pascal, la maman. Maxime.
Thibault, le parrain.
Lauriane, la marraine.
Sébastien, le papa de Romane Grisper.
Alexandra, la marraine de Romane.
Laura, la maman de Romane.
Grégory, le parrain de Romane.
Alors, parents, parrains et marraines, vos enfants seront par leur baptême chez eux dans la communauté chrétienne, qui est leur famille spirituelle. Aucune contrainte ne les y retiendront, et si jamais ils viennent à s'en séparer, leur place, ils resteront toujours marqués. Pour répondre à la bonté de Dieu qui les reçoit dans son alliance, vous resterez pour eux un exemple et un appui, vous prierez pour eux, vous les instruirez et les soutiendrez, afin qu'ils parviennent eux-mêmes à la foi, qu'ils répondent un jour en toute liberté à la grâce attestée par leur baptême et qu'ils prennent part à la Sainte Cène. C'est là votre vocation, que ce soit votre joie. Alors, en nous demandant le baptême de ces enfants, vous avez, dans la mesure de votre foi, exprimé le désir qu'ils reçoivent le signe de la grâce de Dieu. Voulez-vous confirmer ce désir devant l'Église ?
Oui.
C'est bon, là. Par contre, ils sont mis à plusieurs, hein. Donc c'est bon, très bien. En tant qu'assemblée, vous êtes témoin du baptême, je vous invite à vous lever pour signifier ce témoignage. Quel nom de baptême vous avez donné à cet enfant ? Alors, quel nom de baptême vous avez donné à cette petite fille ?
Romane.
Voilà, je vous invite à prendre les engagements que l'Église attend de vous. Vous promettez de faire connaître à ces enfants la vérité chrétienne contenue dans l'Écriture sainte pour qu'ils puissent fonder leur assurance sur la grâce de Dieu attestée par leur baptême et devenir des disciples de Jésus-Christ. Vous les confierez à l'Église universelle qui les reçoit aujourd'hui afin qu'elle les prépare avec vous à confesser la foi de cette Église universelle. Jésus-Christ est le Seigneur. Est-ce bien là ce que vous promettez ? Banco. Voilà, Dieu vous donne la force de tenir vos promesses et puis de vivre évidemment avec les églises auxquelles vous appartenez. Ils sont terribles, hein, parce que je sais qu'il y en a qui ont écrit des témoignages, mais ils n'osent pas le dire. Mais ils ont choisi des textes bibliques que je lirai tout à l'heure, en partie. En revanche, je le dis tout de suite pour ne pas l'oublier. Voilà. Je vous invite à prier Dieu. Seigneur, merci pour Maxime et Romane, pour leur famille, leurs amis, pour tout ce qu'ils nous présentent, pour chacune et chacun d'entre nous. Merci de nous avoir donné d'être les témoins de cet événement, de ce moment de joie, de ce moment d'éternité et de lumière qui vient illuminer nos vies. Oui, Seigneur, bénis ces enfants, bénis leurs parents et leurs familles, qu'ensemble ils puissent grandir sous ton regard, dans la joie de ta présence, dans l'espérance que ta parole apporte aux uns et aux autres. Merci Père pour ces enfants, et que notre prière s'ouvre aussi au monde pour inclure tous les enfants du monde. Nous aimerions tellement que les uns et les autres puissent être accompagnés de leur famille dans la paix et dans la dignité, pouvoir vivre selon ta volonté, c'est-à-dire avec de la reconnaissance et de l'amour autour d'eux. Oui, Père, que cette prière soit la nôtre pour nos enfants et aussi pour les enfants du monde. Amen. Voilà, allez en paix, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Vivez dans la fidélité de la parole et dans l'assurance de sa présence et de son amour. Amen. Alors, en signe d'accueil, je vous invite d'applaudir ces deux enfants et leur famille. Voilà. Voilà, je vous invite à prendre le cantique 225. Attendez qu'il chante. Je vous invite à vous asseoir. Je vous invite à entendre trois textes. Le premier, c'est aussi un des textes qui nous était recommandé à la lecture d'aujourd'hui. Et les deux autres, dans l'évangile de Luc et dans l'évangile de Jean, sont des textes choisis par les familles des baptisés. Donc, dans le Deutéronome, d'abord, au chapitre 4, les versets 32 et suivants. Interroge donc les jours du début, ceux d'avant toi, depuis le jour où Dieu créa l'humanité sur la terre. Interroge d'un bout à l'autre du monde, est-il rien d'arrivé aussi grand? A-t-on rien entendu de pareil? Est-il arrivé à un peuple d'entendre comme toi la voix d'un Dieu parlant au milieu du feu et de rester en vie? Ou bien est-ce qu'un Dieu a tenté de venir prendre pour lui une nation au milieu d'une autre par des épreuves, des signes, des prodiges, par des combats, par sa main forte et son bras étendu, par de grandes terreurs à la manière de tout ce que le Seigneur votre Dieu a fait pour vous en Égypte sous tes yeux? À toi il a été donné de voir pour que tu saches que c'est le Seigneur qui est Dieu, il n'y en a pas d'autre que lui. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour faire ton éducation. Sur la terre, il t'a fait voir son grand feu. Et du milieu du feu, tu as entendu ses paroles. Parce qu'il aimait tes pères, il a choisi leur descendance après eux. Il t'a fait sortir d'Égypte devant lui par sa grande force pour déposséder devant toi les nations plus grandes et plus puissantes que toi, pour te faire entrer dans le pays et te donner comme patrimoine ce qui arrive aujourd'hui. Reconnais-le aujourd'hui, réfléchis. C'est le Seigneur qui est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Garde ses lois, ses commandements que je te donne aujourd'hui pour ton bonheur et celui de tes fils après toi, afin que tu prolonges tes jours sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne pour toujours. Alors, dans l'évangile de Luc, chapitre 6, les versets 29 à 31. À qui te frappe sur une joue, présente encore l'autre. À qui te prend ton manteau, ne refuse pas non plus ta tunique. À quiconque te demande, donne. Et à qui te prend ton bien, ne le réclame pas. Et comme vous voulez que les hommes agissent envers vous, agissez de même envers eux. Et puis, dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, la rencontre entre Jésus et Nicodème. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un des notables juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un maître qui vient de la part de Dieu, car personne ne peut opérer les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme pourrait-il naître de nouveau s'il est vieux? Pourrait-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, nul ne naît d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es maître en Israël, et tu n'as pas la connaissance de ces choses. En vérité, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et pourtant vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous dis les choses de la terre, comment croiriez-vous si je vous dis les choses du ciel ? Car nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. » Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Qui croit en lui n'est pas jugé. Qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré l'obscurité à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, quiconque fait le mal est la lumière. Il ne vient pas à la lumière de crainte que ses œuvres ne soient démasquées. Celui qui fait la vérité vient à la lumière pour que ses œuvres soient manifestées, elles qui ont été accomplies en Dieu. Après cela, Jésus se rendit avec ses disciples dans la Judée. Il y séjourna avec eux et il baptisait. Jean de son côté baptisait à Aïnon, non loin de Salim où les eaux sont abondantes. Les gens venaient et se faisaient baptiser. Jean, en effet, n'avait pas encore été jeté en prison. Or, il arriva qu'une discussion concernant la purification opposa un juif à des disciples de Jean. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, « Rabbi, c'est lui qui était avec toi au-delà du Jourdain, celui auquel tu as rendu témoignage, voici qu'il se met aussi à baptiser et tous vont vers lui. » Jean lui fit cette réponse, « Un homme ne peut rien s'attribuer au-delà de ce qui lui fut donné par le ciel. Vous-même, vous êtes mes témoins que j'ai dit, moi je ne suis pas le Messie, mais je suis celui qui a été envoyé devant lui. Celui qui a l'épouse et l'époux, quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il écoute et la voix de l'époux le comble de joie. Telle est ma joie, elle est parfaite, il faut que je grandisse. » Et moi, je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est terrestre et parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel témoigne de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui reçoit son témoignage ratifie que Dieu est véridique. En effet, celui que Dieu a envoyé dit des paroles de Dieu qui lui donne l'esprit sans mesure. Le Père aime le Fils. Il a tout remis entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui n'obéit pas au Fils ne verrait pas la vie, mais la colère de Dieu demeure en lui. Père, à travers ces témoignages, éclaire-nous pour que nous puissions saisir l'essence même de la vérité et de l'espérance. Amen. Et je vous invite à prendre le cantique 291 avant de revenir là-dessus. Merci Père de nous donner ainsi de cette possibilité de chanter ta louange et de chanter avec cette louange l'espérance qu'il y a en toi. Amen. Le livre du Deutéronome a été écrit à la fin de la royauté en Israël, sous le règne de Josias, dans une période qui est une petite embellie, mais qui reste une période difficile et troublée. Et dans le passage que nous avons lu, il y a un témoignage assez génial, un condensé finalement de pratiquement toute la première alliance, tout l'Ancien Testament. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Vous avez d'abord Dieu qui est le Créateur, qui est posé comme cela, il n'y a pas d'autre Dieu plus grand que celui qui a créé le monde, en gros. Ça, c'est la première, c'est le début, si je puis dire. Et ensuite, vous avez Dieu qui intervient dans l'histoire, quelquefois de manière un peu difficile, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce Dieu qui intervient dans l'histoire intervient aussi pour le peuple d'Israël en particulier. Il y a un rappel de l'Exode, il y a un rappel de la rencontre avec Dieu, à l'Horeb, etc. Enfin bref, il y a un tas de choses qui sont derrière ce tout petit passage du Deutéronome. Ce qui est intéressant quand même dans cette affaire, c'est qu'il y a le don de la loi qui est mentionné avec difficulté ou choses positives. La loi, évidemment, on aime la contester. Je ne sais pas si c'est caractéristique de la France, mais on est un peu comme ça. Dire, ça fait partie de notre manière de voir, de faire, de vivre. Mais c'était quand même nécessaire. Il en faut un minimum pour pouvoir vivre en compagnie les uns avec les autres. Sinon, c'est une anarchie qui laisse le terrain déblayé pour que les plus forts prennent la direction des choses. Mais cette loi qui est donnée, c'est pour le bonheur du peuple. C'est ce que dit le texte. Je trouve que c'est quand même intéressant, hein, de cette problématique qu'il y a au début du Deutéronome et qu'on va retrouver à la fin de ce livre, lorsque Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort, etc. Tu choisiras la vie pour que tu puisses vivre. Il y a un très beau passage à la fin du Deutéronome qui pose le choix du Deutéronome comme cela. Et déjà dans le chapitre 4, donc au début de ce livre, eh bien, il y a la loi qui est donnée pour le bonheur. Je trouve ça intéressant de s'arrêter une minute là-dessus parce que Dieu nous donne les moyens de vivre heureux. C'est ça. C'est un Dieu qui vient pour le bonheur. Je ne sais pas si vous faites une différence avec la mythologie. Vous prenez la mythologie grecque, vous verrez qu'il n'est pas du tout question du bonheur des hommes, je veux dire, dans ce type de mythologie, mais surtout du bonheur des dieux qui se font vraiment plaisir, se chamaillent entre eux, etc., et utilisent les hommes au gré de leurs caprices, finalement, ce qui n'est pas du tout le cas de l'ancienne alliance, où il y a quand même une avancée importante en ce qui concerne l'humain et la théologie, évidemment, ça va de soi. Alors ces paroles, elles sont là, et ce qui est intéressant, ces paroles, elles sont là, et ce qu'il est dit, mais regarde, réfléchis. Je crois que c'est bien. Non, c'est bien de pouvoir dire, ne prends pas ces paroles comme cela, boum, et puis on y va. Mais vois, regarde autour de toi, regarde le monde, hein, contempler le monde. Dire, on peut être illuminé par la contemplation du monde. On peut être illuminé aussi par la contemplation d'un événement, aussi modeste soit-il, qu'il y a dans nos vies. Je ne sais pas, moi, hein, quelque chose qui aussi simple que préparer un plat pour une maison, une maisonnée ou des choses comme cela, où on se dit on va bien le faire. Hein, voilà, mais il se passe quelque chose parce qu'on fait pour les autres, pour que les autres puissent vivre une action qui est là. Regardez autour de vous et réfléchissez, qu'est-ce que ça signifie que de recevoir deux enfants comme cela, comme on l'a fait là il y a quelques minutes, dans une communauté finalement, alors qu'eux ne savent rien, etc., que ce sont leurs parents, les parrains, marraines, les familles qui prennent la décision pour ces enfants. Alors c'est vrai qu'ils seront appelés à un moment donné à confirmer ces engagements, ces événements qu'ils ont vécus aujourd'hui, évidemment quand ils seront un peu plus grands, quand ils auront 15-16 ans. Ils seront considérés comme adultes. Mais il n'empêche, qu'est-ce que ça veut dire, ça, si on s'arrêtait pour réfléchir, dit franchement. Hein, si on amène ainsi des enfants, c'est qu'on a une confiance en Dieu. Hein, c'est que Dieu est du côté de ses enfants aussi, comme il est du côté de tous ceux qui sont aussi faibles que ses enfants, physiquement parlant, j'entends. Voilà, il y a là une invitation du peuple à la fidélité, à la parole de Dieu, à la présence de Dieu dans l'histoire des hommes, à la présence de Dieu dans l'histoire du monde, finalement. Je crois que c'est important, parce que le peuple hébreu, ainsi, est invité à être lui-même. La spécificité de ce peuple hébreu, c'est précisément Dieu, ce Dieu unique qu'il découvre petit à petit à travers les messages des prophètes, hein, pour nous amener à saisir que ce Dieu est un Dieu qui, même si parfois il est difficile à vivre, est quand même un Dieu d'amour, qui invite à la liberté aussi. Parce que toute l'histoire de l'Exode, toute l'histoire de l'Ancien Testament, c'est un apprentissage de la liberté avec Dieu. La liberté des hommes et du monde et des peuples en présence de Dieu. Quelque chose qui est, je crois, de l'ordre de l'espérance, de la dignité humaine. Être pour le peuple, être en Dieu, avec Dieu. C'est l'identité du peuple hébreu. C'est toujours l'identité du judaïsme, d'ailleurs, aujourd'hui encore. Hein, tout est, hein, pour le monde juif, hein, tout tourne autour de cette présence de Dieu et du message de la première alliance. Ce qui est intéressant, c'est que Nicodème est un notable juif de l'époque de Jésus, donc on est bien après, des 6-7 siècles après le Deutéronome. C'est un notable, donc vraisemblablement un pharisien, qui se pose des questions. Lui aussi, il aime bien voir, réfléchir et comprendre. Il fait partie de ces gens. Et il ne prend pas la parole comme ça. Hein, pose des questions. Il a bien entendu parler de Jésus, évidemment. Et il vient le trouver pour lui poser une question sur les signes que Jésus accomplit. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jésus ne répond pas à la question. Je vous ai déjà dit que Jésus était énervant, mais parfois, mais je ne sais pas si Nicodème a été surpris par la réponse de Jésus qui ne lui répond pas, en fait, hein, a priori, hein, bien sûr. Mais dans tous les cas, on n'a pas une réponse directe. Jésus répond à la question sur les signes de Jésus par la nouvelle naissance. Je dirais qu'il répond à côté, comme pour les paraboles. C'est les paraboles, ça veut dire parler à côté. Il répond à côté un petit peu sur la question de la nouvelle naissance. Qu'est-ce que ça veut dire, cette réaction de Jésus, finalement? Je pense que derrière la question de Nicodème, qui est une question de façade, qui porte sur les apparences, finalement, Jésus a opéré des signes, etc. On gamberge beaucoup, hein, savoir comment il a fait des guérisons, est-ce qu'il a marché sur l'eau, etc. Après tout, on s'en fout finalement, ce n'est pas très important de dire. L'important, c'est de savoir ce que ça signifie, véritablement. Or, on a l'impression que Jésus répond à une question que Nicodème n'a pas formulée, mais qu'il a quand même posée. Il y a derrière cette question de façade une autre question qui est plus importante. Ça nous arrive souvent. Quand on rencontre quelqu'un, vous savez, on lui pose une question, mais en fait, il y a derrière cette question autre chose. Jésus, c'est un anachronisme ce que je dis, mais est un fin psychologue. Vous voyez, hein, il n'a pas lu Freud, mais, mais Freud a lu Jésus, en revanche. Voyez, parce que je ne sais pas si vous avez lu du Freud, mais je peux vous dire que c'est bourré de références bibliques. Hein. Mais passons, ce n'est pas l'objet d'une prédication. Mais il y a derrière la question de Nicodème, vraisemblablement, une angoisse très forte. Une angoisse qu'on appelle les angoisses existentielles. Quelque chose qui lui tient à cœur dans son existence. Quelque chose qui le perturbe, qu'il travaille dans sa vie profondément, véritablement. Cette question, c'est comment vivre dans la vérité? Quelle est l'espérance? Quel est le sens de la vie, finalement? Il y a cette angoisse qui est là. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Et ainsi de suite. Il y a des questions qui sont là dans nos vies, comme elles sont dans la vie de Nicodème, finalement, hein, et que, bon, qui ressortent à travers des comportements, à travers des questions qui ont l'air, finalement, d'un second ordre, mais qui sont véritablement importantes, finalement. Alors Jésus lui dit la nouvelle naissance. Il lui dit, en gros, sans parler de formalisme, de rite, de lieu où les choses doivent se passer, c'est pas tellement la préoccupation de Jésus, mais il lui dit, voilà, il y a le Saint-Esprit qui est là. Il y a le Saint-Esprit qui agit dans ta vie. Dire, finalement, il le compare au vent, voyez, dont on ne savait pas à l'époque comment ça fonctionnait. Ça restait très mystérieux. Et l'Esprit est comme le vent. Tu ne sais ni d'où il vient, ni d'où il va, où il va, et pourtant tu ressens sa présence. Le Saint-Esprit est ainsi. Nous ressentons la présence de l'Esprit-Saint à travers des signes qui sont là, à travers des moments de nos vies où nous sommes au-delà de nous-mêmes finalement, au-delà peut-être de nos moyens tels que nous les percevons, et pourtant que nous avons en nous. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus va attirer Nicodème dans son discours vers une prise de conscience d'un amour qui va être présent, un amour qui est fort finalement dans le monde et qui fait vivre le monde, et que le Saint-Esprit est là pour nous faire saisir. Dieu a tellement aimé le monde finalement, et Dieu est là pour le bonheur du peuple, pour le bonheur des êtres humains finalement. Car le message de Jésus s'inscrit tout à fait dans la suite du message de certains prophètes, comme celui qui a écrit la péricope que nous avons lue du Deutéronome. Oui, on est dans la suite. Finalement, l'évangile est là pour nous faire vivre dans la joie aussi, évidemment. Ça n'exclut pas les difficultés, évidemment. Ce serait naïf et stupide de le dire, mais ça nous permet de les affronter, de les négocier, peut-être de les dépasser aussi. Peut-être ça, la vérité. Cette vérité qui est importante, qui nous place dans l'orbite, si je peux dire, de la parole de Dieu, finalement. C'est une question ontologique, finalement. C'est-à-dire que si nous saisissons qu'il y a cette présence de l'Esprit que nous signifions par le baptême, entre autres, hein, évidemment, si nous la saisissons, cette présence de l'Esprit, si nous laissons aller à l'Esprit, véritablement, alors le monde change. Alors, il reste le même, ça c'est sûr, mais notre perception du monde va changer. Vous voyez ? Et c'est ça qui est important. Notre perception du passé, du présent et de l'avenir. Il y aura pour cela une perception nouvelle. Perception nouvelle parce que dans tous ces événements qui sont là et dans ce que nous espérons, il y a des moments de lumière, des moments d'intensité de vie qui sont là, des moments de vérité aussi. Et ça, c'est important. Et je crois que c'est ça, la nouvelle naissance. Alors évidemment, on est dans le discours de l'évangile de Jean, où le partenaire de Jésus reste toujours basique. Hein, comment retourner dans le ventre de ma mère pour naître à nouveau, évidemment. C'est une sorte de provocation qui est de l'ordre d'un matérialisme basique et naïf, un peu bébête. Non, c'est pas ça, évidemment. Non, l'œuvre de l'Esprit, la nouvelle naissance dans l'Esprit, c'est savoir que cet Esprit est déjà en nous et que cet Esprit, il faut le laisser. Le laisser s'épanouir, laisser vivre, il faut le laisser nous saisir véritablement pour pouvoir nous transformer, nous changer. C'est ça l'éternité, nous faire entrer dans quelque chose qui dépasse nos événements, quelque chose qui dépasse nos vies, qui nous transporte au-delà de ces vies de nous-mêmes. Et c'est ça qui est important. Et c'est pour ça que Dans l'évangile de Luc, nous avons lu, il y a quand même ces passages qui sont curieux, hein, tendre l'autre la joue gauche, de donner son manteau, etc. Enfin bref, hein, à celui qui le demande. Et je crois que c'est tout à fait formidable. Vous savez qu'un des saints célébrés par le catholicisme, c'est Saint Martin. Il y avait plein d'enfants qui se sont appelés Martin dans le monde, hein, je veux dire, en l'honneur de Saint Martin. Vous savez qu'il était centurion, il était officier romain. Hein. Et alors, il donne la moitié de son manteau. Et alors, les gens disent, ouais, il a donné la moitié, mais alors la moitié. Hein. En fait, le légionnaire possédait en titre propre la moitié du manteau. L'autre moitié appartenait à la Légion. Donc, Martin de Tours, lorsqu'il donne la moitié du manteau, vous savez les images, on le voit avec son glaive, toi qui est en train de couper le manteau, comme ça, dans les images d'Épinal un peu, il donne tout ce qui lui appartient, mais il ne donne pas ce qui ne lui appartient pas. Hein? Voilà l'illustration de ce que peut être cette nouvelle manière d'être, fondée sur l'amour, la considération de l'autre. Finalement, il voit un mendiant, eh bien, il lui donne tout ce qu'il peut lui donner véritablement, hein, pour que l'autre puisse vivre. Mais c'est ça, la nouvelle naissance aussi. C'est ça qui fait que lorsqu'on est face à quelqu'un qui veut du mal, il ne s'agit pas de l'affronter pour l'écraser finalement, mais peut-être de l'affronter pour lui présenter autre chose, pour dévier finalement l'attaque, si je puis dire, pour dévier l'injure, pour dévier l'injustice, pour essayer de la retourner, pour pouvoir faire quelque chose de positif finalement, pour désamorcer l'agressivité aussi. Tout ça est important, mais tout ça n'est pas si simple comme cela dans un monde de concurrence tel que notre monde est fait aujourd'hui, avec toutes ces publicités, toutes ces consommations ostentatoires, toutes ces peurs qui sont là, que l'on manie à tire-larigot un petit peu. Pourtant, être un autre être que celui que l'on est en apparence pour être véritablement soi-même, quelqu'un qui vit d'amour et qui a envie de partager cet amour, c'est quelque chose d'essentiel finalement. C'est ça l'essence de l'humanité. C'est ça ce que Dieu voudrait faire surgir en nous finalement pour que nous puissions vivre dans la joie et dans l'espérance. Oui, ça consiste à abandonner une manière de voir le monde, une manière de voir les autres, hein, pour entrer dans une nouveauté de vision du monde et des autres. C'est intéressant parce que le baptême, dans le baptême de l'esprit, qui est signifié par le baptême d'eau, qui est le symbole de la purification, évidemment, de la nourriture, de la vie, eh bien, le baptême dans l'esprit nous dit cela. Il y a en nous véritablement quelque chose d'extraordinaire qui est cet esprit qui nous transporte, qui est toujours là, prêt à nous faire sortir de nous-mêmes, de la sorte qu'on puisse, comme disent les jeunes, s'éclater véritablement dans la vie. Et je crois qu'il faut vraiment le faire et le saisir pour aller vers les autres et vers le monde. Je crois qu'il y a une sorte de danse. Hein. C'est un grand théologien qui s'appelle Jürgen Moltmann, qui doit être très âgé aujourd'hui. Je crois qu'il n'est pas mort, mais il est très, très âgé. Il fait partie de cette grande génération des Bultmann et autres, qui écrit « Le Seigneur de la danse » en parlant de Dieu. Dieu nous invite à danser la joie véritablement, hein, à danser dans son royaume, qui est un royaume d'espérance, un royaume plein de lumière et plein d'amour, finalement. La nouvelle naissance, la nouvelle manière d'être, la nouvelle manière de concevoir nos frères et sœurs, les autres, eh bien, elle est fondée là-dessus, elle est fondée sur cette joie de la présence de Dieu, de l'Esprit, qui est une dynamique qui est en nous, finalement, qui est l'Esprit de la résurrection, de la nouvelle vie, de la plénitude. C'est l'Esprit, finalement, qui nous permet de vivre les prémices du royaume tant attendu, tant espéré. Amen. Alors, je fais part des annonces. Pour information, l'école de la rue Froment, donc les Pichoun, là, qui vont venir visiter le temple mardi. C'est quand même assez sympa. En général, ils viennent une fois par an. Il y a deux, trois classes qui viennent. Ça fait une cinquantaine, 60 élèves qui sont en CM2, CM1, enfin un peu grand. Voilà. Enfin, donc, je leur parlerai de Luther, du 500e anniversaire, des trucs comme ça. Hein. Voilà. Pour votre gouverne, moi, je serai à Nantes pour un exposé sur le transhumanisme jeudi. Et vendredi, nous avons le JMJ. Et nous nous penchons au cours de cette soirée sur la doxologie du Notre Père. Voilà, donc tout à fait la fin de notre réflexion sur le Notre Père. Dimanche prochain, eh ben, il y a un baptême, comme tous les dimanches. Non, c'est vraiment super sympa, quoi. Il y a un baptême inscrit le 10 juin aussi. Enfin, voilà. Vous voyez, je veux dire, c'est quand même assez formidable. Donc, dimanche prochain, il y a un baptême d'adultes et puis un baptême d'enfants aussi. Voilà. Hein, vous voyez que c'est quand même une période tout à fait sympa pour l'Église de le mentionner. Alors. Je profite du fait de remercier les organistes comme je fais pour leur accompagnement pour vous dire de la part de Nicole qu'elle ne veut pas qu'il y ait d'applaudissements de l'organiste à la fin du culte. Voilà. Alors, il faut respecter la demande de l'organiste. Voilà. Je ne sais pas, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'il y avait des annonces à faire. Mais si vous faites des annonces, il faut venir ici, mes amis.
Bonjour. On m'a demandé de faire quelques annonces. Alors, c'est Caroline Ducouré qui m'a demandé de signaler que dimanche prochain, 3 juin, non, oui aussi, 3 juin, dimanche prochain, 10h30, c'est la dernière séance des écoles bibliques. Et le 2 juin, à 15h, pour les enfants de l'école publique qui vont au collège, projection du film Selma, qui est consacré, comme le titre ne l'indique pas, à Martin Luther King. Je voudrais redire ce que j'ai dit il y a 8 jours. Un ou deux volontaires pour mettre l'amitié sous enveloppe mardi à 14h serait pas mal. Alors malheureusement, il y avait un volontaire, il n'est pas là aujourd'hui et il viendra à 13h, mais c'est à 14h qu'il faut venir. Cela dit, 3, c'est mieux que 2. Donc, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut venir, merci de le signaler, soit à Nicole Kraft, ici présente, soit à moi, à l'issue du culte. Que dire d'autre ? Mercredi, c'est le Ciné-Club. Alors, pour vous donner envie de voir le film Le Lion et le Vent, je peux vous dire, c'est un mélange de western et de Laurence d'Arabie, avec Sean Connery, et c'est à 20h. Et le Ciné-Club, c'est comme le cinéma, et pas comme le culte, ça commence à l'heure. Voilà.
Et il y a un concert, 5 minutes de
retard. Et aussi, oui, évidemment, dimanche prochain, puisque ce sera le premier dimanche du mois, il y aura une cantate de Bach à 17h30, je crois. Et là, il faut arriver en avance, parce que c'est encore pire que le club et le ciné-club et le cinéma, c'est à l'heure pile. Et il paraît qu'il faut se mettre par là, parce que l'orchestre est là.
Alors, n'oubliez pas le repas du 24 juin. Donc il faut s'inscrire pour ce repas, c'est en l'honneur de Vincent. Donc ça sera le dimanche 24 juin. Alors ça sera un repas alsacien, comme je vais faire un aller-retour à Strasbourg, donc je vais ramener des choses. Mais par contre, il faudra savoir en quelle quantité. Donc il faudrait quand même s'inscrire. La clôture, je pense, des inscriptions, ça sera autour du 15 juin, parce qu'après, il va falloir que je m'organise, que je prépare, etc. Donc inscrivez-vous, surtout si vous êtes intéressé, si vous voulez venir manger avec nous, dimanche 24 juin, donc en l'honneur de Vincent, pour être avec lui, l'honorer, et le remercier surtout de ces 12 années passées avec nous, entre autres. Et donc inscrivez-vous, il faudrait demander aussi aux églises malgaches et camerounaises, si elles désirent venir, et on imagine que oui, bien sûr, leur dire aussi, peut-être cet après-midi, leur rappeler qu'ils s'inscrivent sur le cahier. Donc si vous voulez venir, inscrivez-vous, pour qu'on puisse savoir à peu près combien nous serons ce dimanche 24. Voilà. le cahier est là-bas au fond, hein, derrière Isabelle. Voilà.
Oui, j'ai une dernière annonce que j'allais oublier au mois de juin. Le 7 juin, c'est un jeudi, il y a un repas à midi pour des pasteurs à la retraite. Et c'est à peu près 25 personnes hein, qu'il faut nourrir, là, leur faire un truc un peu sympa. Il y aura aussi une conférence au cours de ce repas de Laurent Gagnebin. Ça, c'est pour vous attirer. Mais il faudrait qu'on soit 5 ou 6, quoi, quand même, pour mettre les tables, mettre des nappes, des fleurs, des trucs comme ça. Enfin, voilà. Hein. Donc, si vous voulez venir à ce moment-là, faites-le savoir, bien sûr. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire d'autre ? Eh bien, si, j'allais oublier l'offrande. Pas de blague. Et donc, je vous invite à participer à l'offrande. Vous savez que l'offrande, c'est aussi un moment d'espérance. Hein. C'est un moment de royaume, c'est un moment de partage. Et il y a tout ça dans l'offrande. Il ne faut pas le perdre de vue. Un moment de reconnaissance, bien sûr. Donc, pendant ce moment d'offrande, je vous invite à chanter le cantique 246. Notre Père, toi qui nous accueilles avec une tendresse toute maternelle, nous remettons nos vies entre tes mains bienveillantes. Voici ce monde qui nous oppresse, qui nous questionne, avec ses violences et ses injustices. Voici nos idéaux souvent bafoués, nos espoirs déçus, espoirs de pain partagé, de justice et d'amour. Et voici des parents, des amis, des voisins, tous ceux ici présents et les autres au loin, que chacun puisse entendre ta parole de vie et d'espérance. Voici nos églises, qu'elles soient fidèles à ta parole, au message des prophètes et de Jésus-Christ, qu'elles soient ouvertes, accueillantes pour le monde et pour toutes celles et tous ceux qui te cherchent, comme ces familles que nous avons accueillies aujourd'hui, comme pour Maxime et Romane. Voici tout un peuple bigarré, éclectique, un peuple de proches et de lointains, qui est là réuni entre tes mains pour te dire finalement la prière que tu lui as enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Les uns et les autres, gardez au cœur la joie des baptêmes. L'espérance, tout ce que ça représente, évidemment. Portez aussi dans vos cœurs le souci des autres. Comme je disais dans une prière tout à l'heure, pensez aux enfants du monde, dire qu'ils ont besoin d'être soutenus. Si certains sont dans l'abondance, à la fois de l'amour maternel, des sociétés dans lesquelles ils sont, il y en a tant d'autres qui sont dans le désespoir. Voilà. Mais allez dans le monde avec tout cela qui fait votre richesse, votre dignité finalement. Allez dans le monde en vous laissant porter par l'Esprit. L'Esprit vous guidera, l'Esprit va vous illuminer incontestablement et vous permettra de renaître et renaître sans cesse à vous-même d'abord et pour le monde ensuite. Oui, allez dans le monde qui a besoin de gens qui sont des témoins d'un amour, des témoins d'une espérance. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde toutes et tous. Allez en paix maintenant et à jamais. Amen.